À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter, à portée de voix.
Il est 23h, merci d'écouter France Inter. Tout de suite, le journal, c'est avec Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Près de deux heures de discours sur l'Europe puissante, mais l'Europe mortelle. Emmanuel Macron a lancé sa campagne européenne aujourd'hui à la Sorbonne, à Paris. Maxence Lambret qui était pour France Inter. Dans l'actualité encore, ce revers pour le mouvement MeToo aux États-Unis. La justice annule la condamnation d'Harvey Weinstein à 20 ans de prison. En France, pas d'accident ni intervention d'un tiers dans l'affaire Kenji Girac. Blessé par balle, le chanteur dut avoir voulu simuler un suicide. L'enquête devrait être classée. Et puis la mort du cinéaste Laurent Cantet. L'hommage de Marina Foïs. L'actrice avait joué pour lui dans son film L'Atelier.
France Inter.
Il y a un peu plus de 6 ans, son ton était porteur d'espoir. Ce jeudi, c'était un remake version alarmiste. Emmanuel Macron est monté à la tribune de la Sorbonne aujourd'hui pour un discours sur l'Europe à 1 mois et demi des élections européennes du 9 juin. Devant 500 invités, mais en l'absence de sa tête de liste, Valérie Ayer, à la peine dans les sondages, est retenue pour la session plénière à Strasbourg. Et Maxence Lambrecq, le chef de l'État, a semblé faire son entrée en campagne.
Il leur a consacré ses derniers mots après 1h45 d'exposé détaillé.
Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Au fond, ils proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et il dit ça va marcher.
Des propos sans doute in fine décomptés du temps de parole de sa candidate qu'il appelle à brandir le drapeau aux 12 étoiles.
Le risque, c'est que tous les autres sont en train de devenir timides. La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire ils sont en train de monter partout. Elle est dans se dire on a le choix. Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir. Les Américains vont choisir leur avenir. Le 9 juin, les Européens aussi.
Et il a trouvé pour cette élection un slogan bien plus fort que le besoin d'Europe qui apparaît pour l'instant sur ses tracts.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Pour survivre, elle doit à ses yeux se simplifier, s'armer, massivement investir, protéger ses frontières, avec pour contre-modèle le Royaume-Uni qui compte expulser ses migrants vers le Rwanda.
Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui s'avérera totalement inefficace.
Cette charge contre les populistes est censée réveiller son camp et il ne s'arrêtera pas là.
Vive l'Europe.
Demain, débat avec des jeunes à Strasbourg et bientôt une action de campagne officielle.
Maxence Lambrecq du service politique de France Inter, Emmanuel Macron qui appelle aussi à réviser la politique commerciale européenne face à la Chine et aux États-Unis. Et justement, avant ce scrutin du 9 juin, Emmanuel Macron aimerait bien inviter Joe Biden pour une visite d'État du 6 au 8 juin en France. C'est une information du Parisien confirmée ce soir par le service politique d'Inter. Le président américain est attendu, quoi qu'il arrive, le 6 juin prochain sur les plages du débarquement pour les célébrations du 80e anniversaire de la Libération. Joe Biden qui avait annoncé il y a près de 2 mois la mise en place d'un port artificiel à Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne bombardée et assiégée par Israël. Eh bien, le Pentagone annonce ce soir avoir commencé la construction d'une jetée avec une chaussée submersible. Elle sera opérationnelle d'ici début mai. De Gaza à l'Ukraine avec ce discours du patron de l'OTAN aujourd'hui à Berlin. Il n'est pas trop tard pour que Kiev l'emporte face à Moscou. À condition, dit-il, que les Occidentaux tiennent cette fois leur promesse en fournissant plus d'armes. Il met aussi en garde Pékin. La Chine doit cesser son soutien technologique à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine si elle veut entretenir de bonnes relations avec l'Occident, prévient Jens Stoltenberg. Nous savions qu'Harvey Weinstein n'avait pas eu droit à un procès équitable. La satisfaction ce soir de l'avocat de l'ancien producteur star d'Hollywood, condamné à 23 ans et 16 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Une cour d'appel de New York a annulé aujourd'hui l'une de ses condamnations, celle de 2020. Raison invoquée, Loïc Loury, des erreurs de procédure.
En mars 2020, Harvey Weinstein était condamné à 23 ans de prison à New York pour un viol et une agression sexuelle. Mais son procès avait vu défiler à la barre d'autres de ses victimes présumées sans que leur cas ne fasse l'objet du moindre chef d'accusation. Cette tactique employée par les procureurs visait à aggraver dans l'esprit des jurés le cas d'Harvey Weinstein. C'est cette méthode que la plus haute juridiction new-yorkaise juge non conforme. Le procès, estime la cour d'appel, était donc inévitable. inéquitable. Comment cette décision affectera-t-elle Harvey Weinstein ? Difficile de le dire dans l'immédiat, l'ex-producteur, condamné en Californie, pourrait y être transféré pour poursuivre sa peine de prison. Quant à savoir si un nouveau procès, dur pour les victimes et cher pour la ville, se tiendra à New York, la décision sera notamment celle d'Alvin Bragg, le procureur déjà en charge du procès Trump qui se déroule en ce moment. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'affaire Harvey Weinstein qui avait déclenché le mouvement MeToo en 2017 contre les violences faites aux femmes. Écoutez la réaction d'Ashley Judd, c'est la toute première actrice à avoir publiquement accusé l'ancien producteur américain.
Ces quatre juges de la Cour de New York ont voté pour annuler la condamnation d'Harvey Weinstein pour crime sexuel. C'est cela, être une femme en Amérique, vivre au milieu des hommes qui revendiquent des droits sur nos corps. La décision prise aujourd'hui est une trahison institutionnelle.
La réaction de l'actrice Ashley Judd après l'annulation de l'une des condamnations d'Harvey Weinstein aux États-Unis. En France, sauf élément nouveau, l'enquête pour tentative d'homicide dans l'enquête Kenji Girac devrait être classée. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le procureur de Mont-de-Marsan dans une longue conférence de presse. Le chanteur de 27 ans a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse dans les Landes. Et ce qu'il a dit aux enquêteurs Ariane Grissel, c'est qu'il a voulu simuler un suicide.
La soirée de dimanche dernier est décrite par le procureur comme tendue entre Kenji Girac et sa compagne. Le chanteur boit beaucoup, il avait plus de 2,5 g d'alcool par litre de sang quand les secours sont intervenus. Il prend de la cocaïne aussi dans la nuit. Le couple se dispute, elle menace de le quitter, d'où la suite relatée par Olivier Janson, le procureur.
Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ et qu'il a à son tour voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas.
Voilà donc pour la version de Kenji Girac livrée hier aux enquêteurs. Vous vous doutez que les gendarmes ne se sont pas contentés de son récit. Ils ont analysé la scène. Au moment du tir, le chanteur était dans sa caravane près du mur.
La présence d'un tiers est matériellement impossible. Il n'y a pas la place concrètement entre le mur extérieur et Kenji Girac pour qu'un tiers se trouve à cet endroit-là.
On ne peut pas être poursuivi pour tentative de suicide. L'enquête devrait donc s'arrêter bientôt. Quant à l'arme, le procureur ne croit pas à la version selon laquelle elle a été achetée sur une brocante, mais il annonce qu'il ne poursuivra pas l'artiste pour ce fait. Kenji Girac a failli mourir, il dit regretter. La loi, précise Olivier Janson, doit dissuader et en la matière, juge le procureur, la leçon a été largement entendue.
Et réaction ce soir des managers de Kenji Girac, il regrette ses confidences du procureur sur l'intimité et la vie privée du chanteur. Il demande aux médias de respecter sa convalescence. J'espère que la presse People enverra des fleurs à ce procureur multicasquette, écrit de son côté le chanteur Vianney sur le réseau social X. Face au déboire de son concurrent Nestlé, le groupe Danone défend ses eaux en bouteille. Evian, Volvic et Badois, elles font l'objet de contrôles extrêmement rigoureux, assure le PDG Antoine de Saint-Afrique, interrogé par des actionnaires inquiets aujourd'hui lors d'une assemblée générale à Paris. Hier, Nestlé a annoncé avoir détruit 2 millions de bouteilles de Perrier après la découverte de bactéries d'origine fécale. Une destruction à la demande de l'État, précise ce soir la DGS, la Direction Générale de la Santé. Et puis ce chiffre aussi ce soir, la production mondiale de vin a chuté de 10% l'an dernier selon l'Organisation Internationale du Vin. C'est dû à la sécheresse, aux incendies, au gel précoce ou encore aux pluies. Et dans le même temps, la consommation de vin a reculé de 3%. Avec sa Palme d'Or en 2008, il avait mis fin à 20 ans de disette pour les réalisateurs français. On a donc appris la disparition du cinéma Laurent Cantet, aujourd'hui emporté par un cancer à 63 ans, auteur de 9 longs métrages, dont le plus connu Entre les murs, celui qui l'a fait connaître du grand public, mi-documentaire, mi-fiction, dans un collège. Il avait aussi réalisé L'Atelier en 2017, l'histoire d'une écrivaine qui anime un atelier d'écriture pour des personnes en insertion. Écrivaine incarnée par Marina Foïs, l'actrice rend hommage à Laurent Cantet.
C'est quelqu'un qui parlait vraiment du monde qu'il habitait, donc il était très très contemporain et en même temps c'est une figure très anachronique en fait, parce que c'est pas quelqu'un de brillant, c'est pas quelqu'un de frimeur, c'est pas quelqu'un de cynique du tout. Parfois l'artiste peut être très cohérent et qu'il peut y avoir un vrai parallèle entre l'homme et le cinéaste. Évidemment pour moi c'est pas un metteur en scène de plus dans ma filmo, c'est quelqu'un qui m'a marqué, il y en a plusieurs, mais lui il a déposé quelque chose en moi. Ce qu'il animait vraiment Laurent Cantet quand il faisait du cinéma, c'était c'est la recherche du sens. Et la recherche du sens, ça se faisait tout le monde en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le temps des acteurs, le temps de la lumière. Il emmenait tout le monde avec une autorité certaine, mais un calme olympien, beaucoup de rigueur et beaucoup d'humilité. En fait, il nous prévenait les uns et les autres des mouvements d'ego qu'on pourrait avoir et qui nous plantent nous-mêmes. Et moi, il m'a protégé de ça et il m'a appris ça. Et c'est quelque chose qui me reste et auquel je pense souvent.
L'actrice Marina Foy, interrogée par Nicolas Théillard sur France Info. Le Festival de Cannes salue la mémoire d'un humaniste acharné après la mort de Laurent Cantet. La météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et pas de grand changement pour demain, Elodie Calac.
Des averses demain et quelques degrés de plus. Sur la majorité du pays, le réveil sera encombré avec quelques averses. L'instabilité se renforcera. L'après-midi, les averses pourront s'accompagner d'orages, en particulier des Pyrénées au nord-ouest. Les averses seront plus marquées aussi le matin de la Basse-Vallée du Rhône et de la Provence vers les Cévennes, puis à l'est du Rhône l'après-midi. Il neigera vers 1300 à 1500 mètres sur les Alpes et le Massif central le matin, 1700 mètres l'après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. Il y aura également quelques éclaircies appréciables demain, surtout dans l'est l'après-midi. De bons moments de soleil, des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, en Corse et aussi sur le littoral atlantique l'après-midi. Les températures remonteront doucement, le risque de gelée ne concernera plus que les massifs le matin, il fera souvent 3 à 10 degrés et puis l'après-midi 12 à 16 degrés au nord et 14 à 19 au sud.
Merci Elodie Calac de Météo France, 23h11 sur Inter.
L'humour d'Inter, c'est Tania Dutel.
Le micro, c'est infesté de polluants éternels. Je préconiserais plutôt des micros en verre, il me semble. Le sol, là, c'est de la moquette. Ah, c'est pour le son. Bon, alors en plus, ça doit être infesté d'acariens.
Charline Vanhoenacker.
Les jeunes sont tellement dans le collimateur du gouvernement, limite, tu peux faire de la garde à vue uniquement parce que t'es né après 2007. D'ailleurs, quand Attal a entendu cet ado dire « Il est méchant, Macron !» Il a failli perdre ses nerfs. Il lui a répondu « Comment ça ?»« Pourquoi tu dis ça ?» On savait plus trop lequel des deux doit participer un stage sur la gestion de la colère.
L'humour d'Inter, c'est aussi en vidéo tous les jours sur le YouTube de France Inter.
Et c'est Affaires sensibles tout de suite sur France Inter avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Le 6 décembre 1989. Un jeune homme de 25 ans, Marc Lépine, s'introduit dans une salle de cours armé d'une carabine semi-automatique. Il ordonne aux étudiants de se séparer en deux groupes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Après avoir fait sortir les seconds, il déclare aux 9 étudiantes restées avec lui dans la classe « Vous êtes des femmes, vous allez devenir ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes ». Puis il tire, tuant 6 d'entre elles. Et ce n'est pas fini. Il poursuit son périple meurtrier à travers l'école, assassinant 14 femmes au total et faisant 14 blessés. Au bout d'une vingtaine de minutes, il se tire une balle dans la tête. Cette tuerie traumatise le Québec. Et il faudra des années pour prendre la mesure de l'événement qui s'est produit, une tuerie anti-féministe, le premier féminicide de masse revendiqué. Notre invitée aujourd'hui, Mélissa Blais, professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, autrice du livre intitulé « Je hais les féministes » le 6 décembre 1989 et ses suites, livre paru aux éditions Remue Ménage. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct, récit documentaire Jean Brossier, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Ce mercredi 6 décembre 1989, l'école polytechnique de Montréal est agitée par l'effervescence habituelle des fins de semestre. Les vacances de Noël approchent, et pour les étudiants, c'est la dernière ligne droite. À l'intérieur du campus, perché sur les hauteurs de la ville, certains assistent à leur dernier cours de l'année. D'autres s'activent pour rendre à temps leur travail de groupe et tous préparent assidûment les examens qui approchent. Sur les 6000 apprentis ingénieurs de poly, on compte alors environ 10% de femmes. Si on est très loin de la parité, le progrès est tout de même notable par rapport à la génération précédente. En 1960, en effet, il n'y avait que 10 étudiantes dans toute l'école. Ce 6 décembre, il neige abondamment. En fin d'après-midi, alors que le jour tombe, un jeune homme de 25 ans s'introduit dans le bâtiment principal. Il s'appelle Marc Lépine. Il n'est pas élève à Poly, même s'il en a rêvé. En 86, il a déposé un dossier de candidature jugé incomplet. Pour pouvoir s'inscrire, il lui fallait d'abord valider deux cours fondamentaux, une étape qu'il n'a jamais franchie. Bien qu'étranger à l'école, Marc Lépine connaît les lieux sur le bout des doigts. Dans les mois qui précèdent, il est venu 9 fois en repérage, apprenant à s'orienter dans le vaste bâtiment de 5 étages. À 16h, l'intrus se poste dans le bureau des inscriptions. Il patiente 40 minutes, assis dans le passage, mais personne ne prête réellement attention à lui. Il faut dire qu'il n'a rien de remarquable, brun, de taille moyenne. Il tient un sac en plastique vert dans lequel il fouille de temps à autre. Mais on ne peut que spéculer sur ce qui lui passe alors par la tête pendant ces 40 minutes d'attente. Est-il saisi de doute, de vertige, alors qu'il s'apprête à exécuter un plan qu'il a minutieusement préparé? Toujours est-il qu'à 16h40, une secrétaire administrative lui demande s'il a besoin d'aide. Sans répondre un mot, Marc Lépine quitte les lieux. Il erre dans les corridors, s'arrête pour sortir la carabine qu'il a cachée dans son sac, et à 17h10, il pénètre dans la salle C234 au 2e étage. 60 étudiants en génie mécanique y suivent un cours. L'un d'entre eux s'appelle Stéphane Scheyer. En 2019, il se remémore l'arrivée de Lépine dans sa classe pour le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre ».
On est tous très concentrés sur ce qu'on fait. On est vraiment dans une activité de présentation de nos projets. Nos collègues présentent, on est intéressés par ce qu'ils présentent. On est aussi en train, en parallèle, faire du multitâche à regarder nos dernières notes. Et soudainement, il y a quelqu'un qui rentre dans la classe, qui a une allure différente, qui est pas habillé comme nous on est, un look un peu plus militaire, si je me souviens bien, avec une carabine. Ça crée un silence instantané. Et il se positionne devant la classe et tout le monde est un peu estomaqué. On est tous à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Et moi, rapidement, en regardant Marc Lépine en avant, j'ai un instinct. Un instinct qu'il y a quelque chose de pas normal. Je sens qu'il y a un problème.
Carabine à la main, Marc Lépine s'approche d'un étudiant qui fait une présentation et crie « Tout le monde arrête tout !» Puis il tire un coup de feu au plafond. « Séparez-vous, les filles à gauche, les gars à droite » ordonne-t-il. Les étudiants sidérés restent immobiles. Beaucoup, en vérité, croient une mauvaise blague de fin de semestre et pensent que l'intrus a tiré une balle à blanc. Mais Marc Lépine répète son ordre en criant jusqu'à ce que tout le monde s'exécute. Une fois les deux groupes constitués, il demande au garçon de sortir. Il reste alors seul avec 9 étudiantes regroupées dans un coin de la classe. Par la suite, les survivants se repasseront la scène en boucle, les garçons en particulier. Aurait-il pu agir autrement, affronter l'assaillant, rester aux côtés des femmes plutôt que de les laisser seules? La vérité, c'est que personne n'imagine sur le moment l'horreur qui va suivre. Yvon Bouchard, l'un des deux professeurs présents dans la classe, croit lui à une prise d'otage. Et comme il le raconte bien plus tard, dans les prises d'otage, quand on sépare les femmes ou les enfants d'un côté et les hommes de l'autre, comment voulez-vous que les gens qui sont là présument que ce sont les premières qui vont se faire tuer? Nathalie Provost, l'une des 9 étudiantes, est alors du même avis. J'avais en tête tous les mythes, les femmes et les enfants d'abord, je pensais plutôt à un guet-apens pour les gars, dira-t-elle. Restée avec ses camarades, face à l'assaillant, elle a avec lui un bref échange, qu'elle raconte dans un documentaire sorti en 1991, intitulé « Au-delà du 6 décembre ».
C'était comme un peloton d'exécution. Puis il y en a qui avaient peur, puis il y en a qui n'avaient pas peur, comme moi, parce qu'on comprenait pas, parce qu'on voulait pas comprendre. Puis il a dit qu'il nous en voulait parce qu'on était des femmes, puis qu'il était antiféministe. Puis là, moi, j'ai dit que ça avait pas de bon sens qu'il soit là, qu'on n'était pas des féministes, qu'on se battait pas contre les hommes, qu'on n'en voulait pas aux hommes, qu'on faisait juste prendre notre place. J'ai tiré. Puis je pense pas que j'ai compris c'est quoi ce qui se passait. Sauf que j'ai vu des yeux s'éteindre. Puis là, j'ai compris qu'elle mourait.
Et l'horreur commence. Marc Lépine vide intégralement le chargeur de son arme sur les 9 étudiantes, soit 30 balles. 6 d'entre elles meurent sur le coup, 3 sont grièvement blessées. Ces dernières, dont Nathalie Prost, gisent écroulées au sol, faisant les mortes. L'une d'entre elles observe alors le visage de l'assassin. Au journal de la presse, elle témoignera. Lépine avait le sourire aux lèvres. Il semblait très fier de lui. On aurait dit qu'il était dans un rêve et que tout se déroulait comme prévu. Il est sorti de la classe sans nous regarder. Il pensait sans doute à ses prochaines victimes. Et effectivement, Marc Lépine poursuit son parcours meurtrier dans le reste de l'école. Il se dirige vers la salle de reprographie où il fait plusieurs blessés, 2 filles et 1 garçon. « Merde, j'ai plus de balles », l'entend-on marmonner. Alors il prend le temps de recharger sa carabine, puis se dirige vers les services financiers de l'école, où il croise le chemin de Maryse Laganière, une employée de l'établissement. Alors qu'elle tente de se barricader, il l'atteint à travers la vitre de la porte. La blessure est fatale. Il est 17h20. Lépine descend à la cafétéria, vaste salle où se trouvent une centaine de personnes. Là, il tue une étudiante qui se trouve près des cuisines. Et un immense mouvement de panique se déclenche. Les gens se sont mis à courir, comme on voit dans les films, des fourmis sortant de la fourmilière, raconte plus tard un rescapé. Les étudiants fuient en t-shirt dans la neige, dévalant les escaliers qui relient l'école au reste de la ville. Les garçons, comme les filles, craignent pour leur vie, personne n'imaginant que seuls les secondes sont visés par le tueur. Froid, méthodique, Marc Lépine débusque 2 étudiantes cachées au fond de la cafétéria et les assassine tout aussi froidement que les autres. Et le cauchemar n'est pas terminé. Reste une dernière étape à son périple meurtrier. Il se rend alors au 3e étage et pénètre dans la salle B311 où un cours se déroule tranquillement, sans que personne n'ait été averti de la menace. Geneviève Caudin, présente dans la salle, témoigne de la scène le soir même à la télé québécoise depuis son lit d'hôpital.
J'avais un cours à l'école. Puis on a entendu des coups de feu puis tout le monde criait, mais on pensait que c'était une joke, c'est une blague, parce que il arrive souvent des choses comiques à l'école. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre local, puis il y avait 3 étudiants à l'avant qui faisaient un oral aujourd'hui. Puis le gars, il avait une carabine. Puis il nous a dit que c'était vrai, que c'était pas une joke. Là, tout le monde s'est lancé en dessous des bureaux, et s'est couché là. Puis il a tiré une couple de fois. J'ai une amie, là, je me souviens là, qu'elle était à côté de moi, puis elle gémissait. Là. Puis quand je suis repartie, je me souviens qu'elle était dans une flaque de sang. Je sais même pas si elle est vivante ou quoi. Là.
Marc Lépine tire sur l'une des étudiantes en pleine exposée, Maryse Leclerc. Puis il blesse mortellement 2 jeunes femmes qui tentent de s'enfuir. Alors que Maryse Leclerc agonise sur l'estrade, appelant à l'aide, il se dirige vers elle et l'achève de 3 coups de poignard. Baignant dans le sang, entouré de cadavres, Lépine a encore une dernière chose à faire. Il pose son couteau ensanglanté sur le bureau, ainsi qu'une 60aine de balles qu'il n'utilisera pas. Puis il s'agenouille, pointant la carabine vers sa tête. On l'entend murmurer « Oh shit !» Et il tire. Il est 17h27, fin du massacre. En seulement 20 minutes, Marc Lépine a emporté avec lui la vie de 14 étudiantes, faisant également 14 blessés. La rapidité de la tuerie a pris la police de court. Elle arrive sur les lieux à 17h30, soit 3 minutes après la fin du drame. D'ailleurs, les policiers n'osent pas entrer immédiatement, attendant des renforts. La panique et la confusion règnent. Le nombre considérable de détonations fait courir la rumeur qu'il n'y a pas un, mais plusieurs assaillants. Ce n'est que vers 6h moins le quart que la police pénètre enfin dans l'école. Et tous se souviennent de scènes de guerre, des impacts de balles partout, des portes défoncées. « J'avais l'impression de voir Beyrouth à la télé après une explosion », déclare l'un des policiers. Les premiers journalistes arrivent sur place pour couvrir l'événement. En quête de réponse, ils se pressent autour du policier Pierre Leclerc, en charge de relations avec les médias. Ce dernier répond tant bien que mal à leurs questions, puis pénètre dans le bâtiment, assurant devant les caméras de télé qu'il va revenir au plus vite communiquer un bilan complet. Mais il ne reviendra pas. Pierre Leclerc est le père de Maryse, la dernière victime de Marc Lépine, poignardée en plein cœur. Dans le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre », il raconte comment il a découvert le corps de sa fille. «
Et puis au troisième étage, je m'en viens dans le corridor et je tourne à droite parce que c'est la seule salle où il y a de la lumière. Là, en tournant le coin de la pièce, du corridor, j'ai vu ma fille à terre tout de suite. Je l'ai reconnue instantanément. Je l'ai regardée 4-5 secondes, 5-6 secondes. Sur le mur derrière moi, il y avait le cerveau des autres filles qui étaient étampées dans le mur. C'était une boucherie épouvantable, tu sais. Et Lépine est sur elle. Tu sais, Marc Lépine est un peu couché comme ça sur Maryse, ma fille.
À la télévision, on parle d'abord d'une simple fusillade, d'un tireur fou qui a ouvert le feu sur des passants, faisant plusieurs blessés. Puis, au fil des heures, le bilan s'aggrave, passant à 14 morts. Dans les salles de rédaction, les journalistes prennent conscience qu'ils sont face à un événement d'importance nationale, voire mondiale. Les tueries de masse dans les écoles sont à l'époque encore rares. Et nous sommes 10 ans avant le massacre de Columbine aux États-Unis. Dans les médias, le choc est tel, ce soir-là, qu'une information majeure passe au second plan, le sexe des victimes. Il faut attendre 21 heures, après 3 heures de direct, pour qu'on annonce officiellement que les 14 victimes sont toutes des femmes. Tout au long de la soirée, les nombreux étudiants témoins de la tuerie avaient pourtant été catégoriques. Le tueur les a visés spécifiquement. Mais la plupart des journalistes présents refusent dans un premier temps d'y croire, trouvant l'information trop invraisemblable, trop choquante pour être relayée. Louis Courville, directeur de l'école polytechnique, se montre également incrédule lorsqu'il est interrogé en fin de soirée à la télé.
Monsieur Courville, comment expliquer que les victimes aient été toutes des femmes?
Eh bien, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. L'individu, apparemment, d'après les témoignages que j'ai eus, n'a rien demandé. Il n'a pas exigé rien de spécial. Il a séparé les garçons des filles, puis il a tué les filles. J'en sais rien. Je suis complètement atterré.
Dans les réactions immédiates au drame, la gêne sur le profil des victimes est palpable. Le soir même, Claude Ryan, alors ministre de l'Éducation du Québec, fait part de ses condoléances les plus profondes aux familles de ces étudiants fauchés dans la fleur de l'âge. Vous avez bien entendu, étudiants, pas étudiantes. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, le premier ministre québécois Robert Bourassa et les principaux responsables de l'opposition rendent hommage aux victimes et aux jeunes assassinés. Mais ils évitent les mots « femme » ou « fille ». Malgré la déclaration choc de Marc Lépine dans la première classe rendue publique par la police, les intentions du tueur sont jugées floues. Au lendemain du drame, l'éditorial du journal québécois Le Soleil est titré « Une tuerie inexpliquée. Je hais les féministes à lancer le tueur fou avant de tuer et de blesser les femmes. Mais cela ne prouve rien », écrit le journaliste. Le 7 décembre, les noms des victimes ainsi que leur âge sont annoncés officiellement en conférence de presse par Jean Grenier, coroner en chef du Québec.
Les victimes sont donc Geneviève Bergeron, 21 ans, Hélène Colgan, 23 ans, Nathalie Croteau, 23 ans, Barbara Degu, 22 ans, Anne-Marie Edward, 21 ans, Maude Avirnik, 29 ans, Barbara Maria Klusnik, 31 ans. Maryse Lagagnère, 25 ans. Maryse Leclerc, 23 ans. Anne-Marie Lemay, 27 ans. Sonia Pelletier, 28 ans. Michel Richard, 21 ans. Annie Saint-Arnaud, 23 ans. Et Annie Turcotte, 21 ans.
Difficile alors de nier l'évidence, le Canada vient d'assister à un meurtre de masse de femmes. Le premier féminicide de masse contemporain revendiqué, comme l'analyse l'historienne Christelle Tarot. 3 jours de deuil national sont décrétés. Le 11 décembre, les funérailles de 9 des 14 étudiantes ont lieu dans la cathédrale de Montréal. Elles rassemblent les plus hauts dignitaires du pays et sont retransmises en direct à la télé. Mais la concorde nationale est rapidement brisée par la polémique. Quelle interprétation donner en effet à ce qui vient de se produire? A-t-on affaire à un tireur fou, un déséquilibré dont il serait vain d'interpréter les motifs? Ou bien à un idéologue anti-féministe, à la manifestation monstrueuse du ressentiment masculin contre les femmes? Et c'est précisément une lettre de revendication retrouvée sur le corps du tueur qui va se retrouver au cœur des débats. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tuerie de l'école polytechnique de Montréal.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
7 décembre 1989, la police de Montréal tient une conférence de presse au lendemain de la tuerie. Elle annonce avoir retrouvé une lettre de revendication sur le corps du tueur, mais refuse de la rendre publique, son contenu étant jugé trop sensible. L'ensemble des propos est antiféministe, résume simplement le porte-parole de la police, qui précise toutefois que cette lettre testament est accompagnée d'une liste de 19 noms. Il s'agit de femmes influentes que le tueur aurait aimé viser. Le manque de temps, car je me suis mis trop tard, a permis que ces féministes radicales survivent, écrit Lépine. Le nom de ces 19 femmes fuit le lendemain dans les médias. Parmi ces noms, il y a celui de Francine Pelletier, chroniqueuse au quotidien national La Presse, fondatrice du magazine féministe La Vie en Rose. En 2019, à Radio-Canada, elle se remémore le moment où elle a appris que le tueur l'avait dans sa ligne de mire.
24 ou 48 heures après, ça aussi je m'en souviendrai longtemps, c'est Alain Dubuc, qui est mon patron à La Presse, comme rédacteur en chef, qui m'appelle à la maison le matin, puis il m'a dit « Est-ce que tu as lu le journal ce matin? » Je dis « Pas encore », mais il dit « Assieds-toi, parce que ton nom est sur la liste. » À ce moment-là, je pense qu'on savait qu'il y avait une liste. Ouais. Les policiers en avaient parlé, mais sans publier. Donc, j'étais vraiment en furie, parce que non seulement les policiers refusaient de publier la lettre qui nous aurait éclairé un peu sur les motivations du tueur, mais il y a quelqu'un qui a coulé ce qu'il fallait justement pas couler, le nom des femmes, des autres femmes que Lépine avait soi-disant en tête.
Francine Pelletier cherche à tout prix à mettre la main sur la lettre de Marc Lépine que la police refuse de lui communiquer. Elle se souvient de sa colère à l'époque. N'avais-je pas le droit, moi, autant que la police, de savoir ce qui s'était passé dans la tête de Marc Lépine, N'avait-il pas tué 14 femmes plus ou moins à ma place? Alors elle porte l'affaire devant une commission d'accès à l'information. Et à nouveau, elle essuie un refus. Ma croisade est foutue, pense-t-elle alors. Personne à part la police ne verra jamais la lettre. Mais un an plus tard, rebondissement, une photocopie du document est envoyée à son domicile par la poste de manière anonyme. Comme dans un roman d'espionnage, se souvient-elle, stupéfaite. L'expéditeur est probablement un policier sensible à sa cause. Le lendemain, la presse, le quotidien où elle travaille, publie cette lettre de Marc Lépine à la Une. En voici un extrait.
Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour l'écrire. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, le 6 décembre 1989, ce n'est pas pour des raisons économiques, car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques, car j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie, et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribuée dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel, que seule la venue de la faucheuse a amené à poser des gestes extrémistes. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes tout en s'accaparant de ceux des hommes. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Un vrai casus belli. Désolé pour cette trop compendieuse lettre.
L'apparition de cette lettre, terrifiante de froideur, mêlant faute d'orthographe et langage châtié, vient contrecarrer le récit qui s'est imposé depuis un an dans l'espace public sur les motivations du tueur, justement. Pendant un an, psychologue, éditorialiste, disserte sur la personnalité de Marc Lépine. On apprend qu'il a été traumatisé par un père violent et absent, qu'il n'a jamais eu de petit ami, qu'il a entretenu des rapports compliqués avec sa mère, comme avec sa sœur, bref. On fait le portrait d'un garçon solitaire et instable, d'un cas isolé, d'un fou, que personne n'a pu empêcher de commettre l'irréparable. Or, ce que dévoile la lettre est tout à fait différent. On y découvre en vérité un idéologue froid, haineux, un érudit rationnel, selon les mots mêmes de Lépine. Comme l'analyse Francine Pelletier à Radio-Canada, ce dernier manifeste un rejet profond de la place croissante prise par les femmes dans la société québécoise. Et sa volonté d'arrêter la révolution féministe s'est mise en marche.
Ce qui rend la tragédie encore plus tragique, c'est pas simplement que des femmes, des jeunes femmes qui avaient la vie devant elles sont mortes, c'est qu'il a tué le futur, il a tué le progrès, Marc Lépine. Il a tué où on s'en allait. Il a voulu arrêter ce mouvement qui est que les femmes se tiennent debout. Et ça, pour moi, c'était absolument, fallait le mettre sur la place publique. Que c'était d'abord beaucoup plus compliqué qu'on pensait, et que c'était ça, il y avait une dent contre ça.
Au moment où Marc Lépine commet son crime de masse, les droits des femmes ont connu des avancées majeures au Québec. Pendant les années 60, une période de l'histoire québécoise appelée la Révolution tranquille, une série de conservatismes s'effondre. Les femmes accèdent aux études supérieures, à la contraception, au divorce. À la fin de cette décennie, l'avortement n'est plus criminalisé. Et en 1989, l'année de la tuerie, il est officiellement légalisé. En quelques décennies, la société québécoise s'affranchit de la tutelle de l'Église catholique et se mue en une société ouverte et progressiste. Si la route à parcourir vers l'égalité réelle des droits est encore longue, la plupart des féministes pensent alors que le combat est gagné et que la société québécoise, dans son ensemble, soutient ces avancées. Aussi, quand Marc Lépine frappe l'école polytechnique, le choc est profond. Je me rappelle avoir pensé « qu'est-ce qu'on a été naïve », résume Francine Pelletier. Dans le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre », la syndicaliste féministe Monique Simard, également citée par Lépine dans sa fameuse liste, analyse ce que l'attentat de Polytechnique a mis en lumière.
On a réalisé qu'il y avait des poches de la société qui nourrissaient un ressentiment très, très profond à l'égard des femmes. Qu'au fond, étaient restées dans un silence, mais ce silence-là n'était pas nécessairement un accord. Les anti-féministes, parce qu'il y en a, il y en avait à l'époque, et il y en a encore, ça faisait leur affaire de se servir, je dirais, de cette tragédie pour dire, ben, elles ont été trop loin, il faudrait un peu se calmer. Et là, tout d'un coup, était interviewé un tas de femmes qui disaient « Non, moi, je suis pas féministe. Oui, c'est très bien, mais là, c'est peut-être plus nécessaire. Là, ils en ont eu assez, ils en ont plus besoin. »
Backlash. C'est ainsi que les féministes qualifient le retour de bâton conservateur après chaque avancée du droit des femmes. Dans le sillage de la tuerie de Polytechnique, le backlash est particulièrement violent. Le lendemain de l'attentat, en effet, certains hommes participent à des émissions interactives de radio pour faire part de leur compréhension pour l'auteur. La journaliste Francine Pelletier reçoit ainsi l'appel d'un homme qui affirme s'identifier auteur. « Si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi », lui dit-il. Et au téléphone, il détaille à la journaliste son ressentiment contre son ex-petite amie et contre le féminisme en général. « Il se vivait comme émasculé », résume-t-elle. En 1990, un essayiste influent, Roch Côté, publie un brûlot antiféministe intitulé « Manifeste d'un salaud ». Il y affirme que les idéologues du féminisme ont bel et bien récupéré la tuerie de Polytechnique à leur profit, fustigeant une opération qui relève de la croisade et de l'exorcisme contre les hommes. Au fil des années, des groupes masculinistes se structurent au Québec. En 2009, 20 ans après la tuerie, le documentariste Patrick Jean, dans son film « La domination masculine », donne la parole à plusieurs d'entre eux.
Et je dis, le Québec, c'est l'opposé du Taliban. Le Taliban, c'était l'oppression contre les femmes. Le Québec, c'est l'oppression contre les hommes. C'est la vérité.
C'est pas exclu qu'un jour, un jour ou l'autre, il y a un retour de bâton, un retour de flamme sur ce qui se passe au Québec. On a eu l'exemple de Lépine, qui a été une grosse erreur sur le plan politique. Mais je ne dis pas qu'on aura un jour ou l'autre la Saint-Barthélemy ici, entre les hommes et les femmes. Mais je dois dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont montés contre les féministes, contre les femmes.
Loin de sombrer dans l'oubli, Marc Lépine devient une référence pour les masculinistes les plus extrêmes. En 2009, un blogueur canadien le compare à un héros, le glorifiant dans des montages photos l'arme à la main. Il fera de la prison pour incitation à la haine contre les femmes. Marc Lépine lui apparaît aujourd'hui comme le précurseur d'un mouvement qui émerge sur Internet dans les années 2010, le mouvement Incel. Ce terme anglo-saxon, contraction de célibataire involontaire, désigne des communautés en ligne de jeunes hommes blâmant les femmes pour leur absence de vie sentimentale et sexuelle. Certains se contentent de faire étal sur des forums de leurs ressentiments misogynes. Mais d'autres passent à l'action violente. Ainsi, en 2018, à Toronto, toujours au Canada, un jeune homme de 25 ans, Alex Minassian, fonce sur la foule au volant d'une voiture, tuant 10 personnes, principalement des femmes. Peu avant l'attaque, il publie sur sa page Facebook un message annonçant le début de la révolution incel. En 2020, à Toronto toujours, un adolescent de 17 ans assassine une femme dans un salon de massage. On retrouve dans son manteau une note où il indique que la rébellion des incels a commencé. Il sera condamné pour terrorisme. Car comme l'explique le journaliste Mathis Buchensturm sur France Culture en 2022, avec les incels, c'est bien une nouvelle menace terroriste que l'on voit émerger.
Les incels version 2022 sont plus dangereux et plus radicaux qu'ils ne l'ont jamais été. Et sur le site Incel le plus en vue, où seuls les hommes qui se déclarent hétérosexuels ont le droit de poster, eh bien le CCDH a analysé plus d'un million de messages montrant une augmentation de l'apologie du viol, des tueries de masse et de la violence. Les services secrets américains avaient déjà prévenu en mars dernier à travers un rapport avertissant que la violence anti-femme constitue une menace terroriste croissante.
Au Québec, si la menace masculiniste ne disparaît pas, la mémoire conflictuelle de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal s'apaise au fil du temps. Son caractère antiféministe est progressivement reconnu. En 1991, le Canada décide de faire du 6 décembre, date anniversaire de la tuerie, la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2009, 20 ans après les faits, le film du réalisateur Denis Villeneuve, Polytechnique, est un moment important pour la mémoire collective. Reconstitution minutieuse du jour de la tragédie, le film est décrit par plusieurs survivantes comme très fidèles à leurs souvenirs et rendant justice aux victimes. Signe de l'évolution des mentalités, en 2019, à l'occasion du 30e anniversaire, la municipalité de Montréal décide de modifier la plaque commémorative de la tuerie. La première, rédigée en 1999, parlait seulement de la tragédie survenue à l'école polytechnique. Sur la nouvelle, on lit désormais que 14 femmes ont été assassinées lors d'un attentat anti-féministe. Et c'est désormais l'expression consacrée pour parler du 6 décembre 1989.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Notre invitée, Mélissa Blais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Vous êtes notamment l'autrice du livre « J'ai les féministes ». Alors, j'ai dit tout à l'heure « Je et les féministes » parce que c'est écrit J-J', H-A-I-S, mais évidemment, à l'oral, ça passe pas. Donc, c'est « J'ai les féministes », le 6 décembre 1989, et c'est suite aux éditions Remue-Ménage. On peut également citer l'ouvrage collectif « Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui » aux éditions Presse universitaire de France que vous avez co-dirigé. Alors vous êtes à Montréal en duplex depuis Radio-Canada, merci, et vous avez beaucoup travaillé sur la tuerie de Polytechnique et ses conséquences sur la société québécoise. Je note que vous êtes née en 1978, vous étiez donc une toute jeune adolescente au moment des faits. Est-ce que vous avez été marquée à l'époque par cet événement tragique et comment avez-vous été marquée?
En fait, j'ai conservé aucun souvenir de l'attentat du 6 décembre. Là, je crois que c'est parce que ma mère voulait me protéger. Et c'est au moment de mes études universitaires que j'ai pris connaissance de cet événement marquant au Québec. Et j'ai décidé de creuser la question de la place du féminisme. Quelle place laissons-nous aux féministes dans l'interprétation de l'attentat du 6 décembre et dans la création, la formation de la mémoire collective qui va se faire assez rapidement dès le lendemain. Les discours, en fait, qui les appels au silence plutôt, qui cherchent à taire et à taire donc l'événement, ne parviendront pas à s'imposer. Et très rapidement, comme je le disais, une mémoire collective va se mettre en place. Et là, on ne remet pas en question les quelques minutes, les 20 quelques minutes de l'attentat, là, mais on cherche plutôt, en fait, à débattre du sens à donner à l'événement. Mmh. On interprète le sens ici, et c'est une mémoire en conflit, une mémoire en bataille, qui en fait va laisser la place à, au départ, un discours sur la psychologisation du tueur. Hein, le documentaire, le reportage le disait bien. On produit un portrait en fait du tueur comme un être instable, solitaire. Alors que mes recherches démontrent que c'est pas tout à fait le cas. Il était capable de travailler avec des jeunes femmes au cégep du Vieux-Montréal où il étudiait. Il avait des bonnes notes à l'école. Sa voisine disait même de lui qu'il était en fait charmant. Au moment où elle a appris qu'il avait eu cet attentat, un journaliste est allé l'interroger. Et puis elle pensait que c'était le colocataire du tueur, en fait, dont il était question. Elle le décrivait comme un être misogyne, alors que justement, le tueur était plutôt gentil avec elle. Donc, ici, on n'a aucune trace d'un être instable. Et la lettre de motivation, en fait, la lettre qu'il a écrite pour expliquer son geste le dit clairement, c'est un geste politique et c'est une motivation anti-féministe.
Alors, vous l'avez décelé parce que vous êtes une personne éclairée, et vous travaillez justement sur ce thème du féminisme, mais pour la société québécoise, franchement, quand c'est arrivé, est-ce qu'on tenait ce discours ou est-ce que le discours était un discours de sidération, d'indignation devant l'horreur, qu'elle soit antiféministe ou pas?
Bon, évidemment, c'était un peu difficile au Québec de voir en fait la fracture. Hein. L'attentat du 6 décembre venait rappeler que la société québécoise est encore marquée par de la misogynie, que l'attentat, en fait, venait signifier que l'égalité entre les femmes et les hommes n'était pas atteinte. Et pour le Québec, eh bien, c'était en fait gros à reconnaître cette persistance des inégalités. Et plus c'est près de nous, plus c'est difficile, en fait, de voir les clivages sociaux. C'est toujours plus simple et facile, d'un point de vue journalistique, de voir ces clivages lorsqu'ils sont à l'extérieur, dans un autre pays, surtout dans les pays qu'on considère non démocratiques. Hein. Mmh. Donc, plus le temps passe et plus il y a une certaine forme de reconnaissance. Mais là, la reconnaissance ne se fait pas magiquement. C'est grâce aux commémorations féministes. Année après année, elles gardent le fort et elles commémorent à toutes les fois, de sorte qu'elles vont justement faire usage de cette mémoire collective comme d'une mémoire exemplaire. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire exemplaire? C'est une mémoire qui cherche à agir dans le ici et maintenant pour prévenir ce type de drame, ce type d'attentat. Donc, elles vont militer contre les violences faites aux femmes en insistant ici que le tueur est un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, qu'il faut s'y attaquer. Mais 10 ans après, on reconnaît du bout des lèvres, en fait, que le tueur était peut-être, oui, certes, misogyne, mais on ajoute du même souffle en 99 que, bon, la misogynie est chose du passé, que le Québec va bien. Donc, voyez, cette distance dans le temps permet une certaine forme de reconnaissance, mais toujours en marquant, en fait, le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour maintenir ce consensus social, éviter de travailler autour des clivages sociaux. C'est comme si, en fait, le tueur était le dernier des dinosaures en 1999.
Et alors, vous êtes plongé dans les archives de la presse au moment des faits, puis durant les différentes commémorations de la tuerie. Qu'est-ce qui ressort de cette étude, de ce qui était écrit dans la presse? Qu'est-ce que vous en avez conclu?
Ben, d'abord, justement, au sortir de la tuerie, hein, je vous parlais de la mémoire collective, c'est fascinant de voir que dans le ici et maintenant, un ensemble d'acteurs, que ce soit justement des militants de féminisme, mais aussi des chroniqueurs, des journalistes, des psychologues, mais tout le monde s'en mêle. Et dans le moment présent, on cherche à produire une mémoire collective. Et ça, c'est quand même pas rien, surtout en 1999 où on n'avait pas justement Internet et on était moins dans la spontanéité. Et donc, on produit cette mémoire. Et là, on cherche évidemment à s'en prendre aux féministes assez rapidement, de façon subtile parfois, en disant que les féministes exagèrent, qu'elles sont allées trop loin, parce que justement, il faut pas chercher à interpréter ailleurs que dans la psychologie du tueur. Et sinon, on va être face aussi à une déferlante. Cet événement va ouvrir la voie à une déferlante antiféministe qui est parfois beaucoup plus virulente.
Oui.
Et j'ai pu justement documenter ce que j'ai appelé un procédé d'héroïsation du tueur. Et ça, c'est avant même là, la création des médias sociaux. On est ici face à des antiféministes très virulents qui vont traiter le tueur comme un héros.
France Inter. Affaires sensibles.
Aujourd'hui, la tuerie de Montréal. Mélissa Blais, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec. Est-ce que on peut parler, parce qu'on l'a fait dans le récit, d'un attentat terroriste? Parce qu'après tout, il y a différentes formes de terreur.
Bien sûr, je reprends ici certaines caractéristiques de l'attentat terroriste là, d'un point de vue sociologique et non pas légal. C'est-à-dire que le tueur cherche à faire peur en ciblant. C'est-à-dire, il y a toujours en fait des cibles ultimes et des cibles directes. Les cibles directes ne sont pas nécessairement celles qui sont visées, mais elles cherchent à attirer l'attention et justement attirer l'attention sur les cibles ultimes. Dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui s'est passé. Le tueur de Polytechnique s'en est pris à un symbole du féminisme, hein, ces femmes qui en fait et perçaient dans un métier non traditionnel, le métier d'ingénieur. Elles étaient présentes à l'école polytechnique. Et il s'en est pris à elles parce qu'il voulait ultimement attaquer le féminisme. C'est ce qu'il dit, qu'il a répété verbalement lors de l'attentat, mais aussi dans sa lettre de suicide.
Bien sûr.
Donc, c'est en ce sens, en fait, qu'il produit de la peur. Il a produit de la peur à l'intérieur du mouvement féministe. J'ai reçu plus d'un témoignage de femmes qui verrouillaient leurs portes, qui me témoignaient avoir justement ressenti de la culpabilité vis-à-vis des plus jeunes femmes, se disant qu'elles étaient peut-être responsables. En fait, elles adoptaient un discours qui ressemble au discours de femmes victimes de violences conjugales, comme quoi elles se sentaient justement responsables, à tort, bien évidemment. moment, mais c'est ce que produit un attentat terroriste.
Alors, les 19 femmes aussi, cette liste de 19 femmes considérées comme féministes et femmes influentes par le tueur et qui l'auraient voulu tuer, est-ce que pour vous, cette liste, c'est aussi la clé du crime, la clé de l'explication?
Tout à fait. Et je rappellerai également que Internet n'existait pas à ce moment. Il a dû faire de la recherche. Donc, il a travaillé longtemps là, pour arriver à trouver la première femme qui a gagné un concours de l'ordre des comptables agréés, la première femme pompière, la première femme policière. En fait, il a travaillé très fort pour arriver à dresser cette liste de 19 noms. 19 noms de femmes qui, encore une fois, n'étaient pas féministes, mais qui... pas toutes, en fait, mais qui symbolisaient parfois, justement, des avancées du mouvement féministe parce que il s'agit de femmes qui travaillaient dans une profession traditionnellement jugée masculine. Sinon, on avait des féministes comme Francine Pelletier, et on l'a entendu dans votre reportage. Mais donc, cette liste, oui, venait confirmer, en fait, les intentions du tueur. Et on retrouve aussi chez les incels aujourd'hui, toutes sortes, en fait, de commentaires autour des attentats ou des tueries de masse de la part d'incels, où ils vont se critiquer entre eux en disant non, il faut arriver à trouver les bonnes cibles, pas les cibles directes, mais les cibles ultimes, en fait, celles qui nous dérangent le plus, c'est-à-dire les féministes. Donc, ils cherchent à s'en prendre directement, soit à des professeurs en études de genre. C'est le cas en juin dernier, ça va faire à peu près un an maintenant. En juin dernier, il y a une professeure à l'Université de Waterloo qui a été attaquée au couteau par un étudiant qui n'était pas inscrit à son cours, mais qui est entrée dans sa classe en disant quel est ce cours, et puis elle a confirmé que c'est un cours en philosophie du genre, et puis il s'est attaqué à elle. Donc, les incels, par la suite, ont estimé qu'il s'agissait là de bonnes cibles. Enfin, il n'y avait pas de dommages collatéraux.
Et qu'est-ce qu'il lui a fait, vous dites? Il s'est attaqué à elle, il l'a agressé physiquement?
Il l'a agressé physiquement avec son couteau. Il a agressé également des personnes étudiantes qui ont cherché à s'interposer. Heureusement, personne n'est décédé. Mais vous parliez en fait du jeune homme mineur qui est entré dans un salon de massage en 2020 pour assassiner, oui, au nom des incels, une jeune femme qui, elle, est décédée, qui a été accusée de terroriste. Eh bien, ce jeune homme aussi, à l'Université de Waterloo, est fait face à des accusations de terrorisme.
Comment définiriez-vous la pensée des incels? Au-delà de leurs actes, là, on vient de voir leurs actes. Quel est le tréfonds de leur pensée?
Bien, en fait, ce sont la plupart des jeunes hommes qui vont, en fait... argumenter autour d'une perspective voulant qu'ils sont génétiquement moins bien avantagés que d'autres hommes, moins favorisés que d'autres hommes dans leur capacité à séduire. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, ils en veulent aux femmes qu'ils estiment être des femmes populaires, les femmes qui sont jolies selon eux. Et c'est contre ces femmes qu'ils argumentent, en fait, qu'ils travaillent, en fait, leur discours de haine, c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble des femmes, ce sont seulement ces femmes populaires qui devraient, en fait, s'intéresser à eux. Voilà, au niveau du discours, les incels vont justement dire que les féministes sont un problème parce que les féministes vont empêcher les femmes d'être des proies faciles, des choses à séduire. Et là, on a toute cette idée comme quoi, justement, nous serions programmés pour être génétiquement séduisables par les hommes. Il y aurait justement cette perspective voulant que les femmes doivent rester celles que l'on séduit. Voilà, que l'on séduit.
Et le courant masculiniste, est-ce que vous sentez qu'il prend de la vigueur et de la force au fil du temps?
Eh bien, c'est vraiment difficile à dire, si ce n'est que oui, effectivement, Internet et les médias sociaux là, qui forment un peu une chambre d'écho, mais aussi qui forment une sorte de porte-voix pour les discours antiféministes, nous laissent à penser qu'ils sont plus nombreux maintenant. Puis, si on regarde la manosphère canadienne, elle est identifiée comme l'une des plus importantes au monde, avec le plus de contributions. Et c'est pas étonnant tout ça, parce que ce qui est aussi le propre de tout contre-mouvement, c'est de se mettre en forme et d'émerger à partir du moment où le mouvement contre lequel il s'oppose est considéré comme populaire, fort, visible, audible. Et dans le cas de l'antiféminisme, justement, au Québec, on entend parler du féminisme. Les cours en études féministes sont populaires dans les universités. Les jeunes féministes sont bien présentes, à la fois dans la rue et sur le web, et donc on les entend. Et il suffit